enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de crier parce que la bonne nouvelle est si bonne que vous avez envie de l'annoncer à quelqu'un? Et vous ne pouvez pas vous empêcher de dire « Hey, il faut que je te dise quelque chose, j'ai tellement une bonne nouvelle à t'annoncer. » Et on a presque envie de lui crier dans les oreilles ce qu'on a envie de lui dire, n'est-ce pas? Ce matin, c'est à peu près comme ça que je suis venu louer le Seigneur. Dire merci pour toutes les merveilles que tu fais dans ma vie. Merci pour toutes les merveilles que tu me permets de voir. Et pour commencer ce message, j'aimerais vous donner un témoignage. Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Mathieu. Il était vraiment chou, hein, le petit Olivier. Alors, j'étais au camp d'ado avec Quartier Libre, dont Bertrand s'occupe, hein, vous êtes bien au courant de ce qui se passe. Et je dois dire que j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire avec l'équipe en place là-bas, avec tous les moniteurs, mais aussi les enfants. Donc on avait une quarantaine d'adolescents entre 11-12 jusqu'à 17 ans. Donc pendant 15 jours, ça a été intense, vous imaginez, tous les péripéties qu'on peut avoir, etc. avec ces jeunes. Mais le dernier jour, donc le samedi matin, c'était le dernier temps spirituel que nous avions avec ces enfants, parce que chaque matin, nous avions un temps qu'on appelait un temps autour de Dieu. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, on repartageait la parole de Dieu, expliquant certaines choses que Dieu voulait faire avec eux, leur donner de l'espoir, de donner vraiment quelque chose de nouveau. Puis petit à petit, on a commencé à parler de Jésus, parler du paradis, mais aussi de l'enfer, toutes sortes, et ça devenait vraiment profond. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse laisser ces enfants repartir comme ça sans au moins prendre une décision. C'est pas simplement un camp, simplement pour les animer, leur faire du bien, mais aussi pour qu'ils vivent quelque chose de puissant avec Dieu. Et vous savez, la plupart de ces adolescents viennent donc des quartiers, mais aussi la plupart sont d'origine musulmane. Donc même si tous ne pratiquent pas, même s'il y en a qui mangent du porc, mais en eux, ils sont musulmans. Il ne faut pas leur poser la question si tu es musulman. Mais bien sûr, c'est en eux, tu ne peux pas leur enlever cela. Et puis, face à cela, je dis, Seigneur, il faut que tu te révèles. Moi, je peux pas les convertir de moi-même, je peux pas changer leur vision, je peux pas changer leurs choses, leur cœur, je peux rien faire face à cela. Donc Seigneur, c'est toi qui vas faire tout le reste. Moi, je vais juste annoncer un petit message et après toi, tu vas faire le reste. Mais je veux que ces jeunes puissent repartir avec la conviction que Jésus existe et que Jésus est vivant. Et puis, on a passé un temps de louange avec eux, on a chanté, ils aiment beaucoup chanter, alors on a chanté des chants avec eux. Ensuite, on a pris un temps autour de Dieu, autour de la parole. Je leur ai parlé du bon berger. Du bon berger, vous savez ce texte où Jésus dit « Qui va laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue ?» Et pour terminer ce temps autour de Dieu, j'aurais dit « Mais qui voudrait accepter Jésus comme le bon berger ? Qui accepterait l'aide du bon berger ?» Et puis, on a commencé à chanter un chant. Vous savez, vous chantez ce chant aussi ici. Seigneur, tu es là. On a commencé à chanter ça, à chanter ça. Et puis, je me suis dit, maintenant c'est le temps de les mettre face aussi à la réalité des choses. Mais je dis, Seigneur, maintenant c'est toi qui fais le reste. Et je leur ai dit tout simplement, ceux qui veulent faire une démarche auprès de Jésus, demander de l'aide auprès de ce bon berger. Tout simplement. Vous allez vous lever, manifester votre envie de connaître ce bon berger. Et puis vous savez, c'est dans ces moments-là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Qui va se lever? Et puis, après quelques secondes d'attente, un par un, ils ont commencé à se lever. Un par un, ont commencé, filles, garçons, à se lever. Et moi, j'étais là avec mes grands yeux ébahis. Je dis, mais Seigneur, il se passe quelque chose aujourd'hui. Mais continue, continue. Et ils ont commencé à chanter, Seigneur, tu es là. Et après, on a commencé à chanter, Jésus, tu es là. Et je dis, mets la main sur ton cœur et chante, Jésus, tu es là. Et ils ont commencé à chanter, Jésus, tu es là. Et Jésus est descendu, mes amis. Mes amis, c'était l'une des réunions, peut-être la plus merveilleuse que j'ai vue. J'en suis encore un peu ému. Il y a l'amour de Dieu ne s'arrête pas. L'amour de Dieu ne tarit jamais. Et ses enfants, excusez-moi, ses enfants commençaient à recevoir l'amour de Dieu. Commençaient à rencontrer Jésus. Merci. Commençaient à rencontrer Jésus personnellement. Jésus commençait à se manifester. Et certains disaient, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ressens une chaleur dans mon cœur. Je ressens quelque chose de différent qui commence à rentrer en moi. Et la présence de Dieu était si manifeste dans ce lieu ce jour-là qu'on aurait pu simplement la prendre. Vous savez, ce genre de réunion, on ne les calcule pas. Quand Jésus vient, les choses changent, les choses bougent, les cœurs sont transformés. Quand l'amour de Dieu se déploie, les cœurs voient. Alors tous ne sont pas levés, se sont pas levés. Je dirais 95% ont fait cette démarche. Mais une chose est sûre, c'est que les 5 autres pourcents ne pourront plus jamais dire que Jésus n'est pas vivant. Parce qu'ils l'auront vu de leurs propres yeux. Ils ont vu leurs copains solides, guerriers, toujours en train de faire les caïds, s'effondrer devant la puissance de Dieu. Recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Et vous savez, il a fallu partir les quitter. Et c'est un déchirement. Déchirement pour moi parce qu'on s'attache à ses enfants, on s'attache à leur personnalité aussi, on les aime, on passe 15 jours avec eux. Mais je sais qu'ils sont entre de bonnes mains maintenant. Non seulement la main de Dieu, mais aussi la main de Bertrand et de toute l'équipe qui s'occupe d'eux tout au long de l'année. Et j'aimerais vous dire que ce travail-là, ce qu'on a vu ce jour-là, simplement le travail aussi des hommes et des femmes qui travaillent tout au long de l'année et qui s'aiment, et qui s'aiment, et qui s'aiment, et qui attendent qu'une chose, c'est ce que moi j'ai vu, mais j'ai jamais participé à rien avant. J'aimerais vous dire que des hommes et des femmes portent ces enfants dans leur cœur. Portent et chaque semaine vont travailler pour ses enfants jusqu'à ce qu'ils puissent voir ce genre de choses. Et j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe aujourd'hui de Quartier Libre et de Antizone, tous ceux qui font un travail, mais je ne veux pas vous dire, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ça demande de la patience, de la persévérance. Mais pourquoi? Parce qu'ils aiment ses enfants. Et quand on aime, on ne compte pas. Et Dieu ne compte pas avec nous. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est les quatre vérités de l'amour. Et comme je vous ai dit, le premier point, c'est que l'amour ne tarit jamais. C'est 1 Corinthiens 13, verset 8 qui dit, l'amour ne périt jamais. Jamais l'amour de Dieu ne s'arrêtera. Amen. Jamais l'amour de Dieu s'arrêtera ici-bas sur terre, ni même dans les cieux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la nature même de Dieu. On ne peut pas changer la nature de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est amour, n'est-ce pas? Il est amour. Il est tout simplement l'amour incarné. Il est l'amour suprême. Il est l'amour parfait. Et si aujourd'hui nous sommes ici, assis dans ce lieu, en train de le louer, en train de le prier, en train d'écouter à ce moment-là, c'est parce que vous avez connu l'amour de Dieu. Et cet amour, mes amis, ne vous quittera plus jamais. Parce que cet amour ne périra pas. Hier, nous avons eu la joie de célébrer le mariage de Claude et de Claire, Ikwe, maintenant. Et c'était vraiment une superbe cérémonie. Et je me dis que aujourd'hui, beaucoup de gens, on ne pourra jamais empêcher les gens de se marier, chrétiens ou non chrétiens. Les gens se marient, les gens choisissent de vivre ensemble. Mais je me dis, les gens sont courageux aujourd'hui de le faire. Les gens surtout qui ne connaissent pas Jésus sont courageux de le faire. Parce que quelle est leur garantie que l'amour de leur conjoint ou même leur amour ne va pas tarir à jamais? Leur amour ne va pas s'arrêter à un moment ou un autre dans leur vie, dire je ne t'aime plus. Mais ils choisissent, mais il n'y a pas de garantie. Mais quand Claude et Claire sont venus hier, nous avons été émus de voir qu'ils ont mis Dieu au centre. Et ça, c'est la garantie que leur amour, si Jésus est au centre de leur vie, ne tarira pas. C'est possible que des couples tiennent. C'est possible que des familles restent unies si Dieu est au centre, puisqu'il est l'amour. L'amour de Dieu ne tarira jamais, ne tarit jamais. Vous savez, il est dit au verset 13 de 1 Corinthiens, « Maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi ? L'amour. Est-ce que vous savez pourquoi c'est l'amour ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Je vais vous dire une chose, c'est que la foi et l'espérance sont des choses qui resteront ici-bas. Nous n'emporterons pas la foi et l'espérance avec nous au ciel, mais l'amour restera à jamais. L'amour de Dieu restera à jamais, parce que c'est la nature même de Dieu. Ces choses disparaîtront. La foi et l'espérance sont ici, ils nous aident ici-bas sur cette terre à accomplir notre dessein, notre volonté et la volonté de Dieu pour nous. Mais une fois que nous serons en face du Dieu vivant, en face de ce Dieu suprême, en face de ce Dieu d'amour, nous n'aurons plus besoin ni de foi ni d'espérance. Parce que la foi et l'espérance, c'est ce qui nous aide à faire les bons choix ici-bas pour que notre chemin soit tracé, pour que face à face, nous puissions voir notre Dieu. Plus besoin de foi ni d'espérance, simplement l'amour éternel avec notre Dieu. À le louer, à l'adorer, à le contempler, à découvrir son visage, à le célébrer. Donc, la foi et l'espérance sont que pour ici-bas. Mais l'amour restera à jamais. Alors voilà les quatre vérités de l'amour. Et peut-être vous en avez déjà entendu parler. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans 1 Corinthiens 13. Et on va prendre au verset 4. On va prendre au verset 1, pardon. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance que j'aurai même, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son propre intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et la première vérité aujourd'hui de l'amour, c'est que l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Souvenez-vous de ce que Jésus dira sur la croix. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que personne ici dans ce lieu n'a subi et n'a vécu les souffrances de Jésus-Christ. Personne n'a subi les souffrances physiques, émotionnelles que Jésus a vécues. Mais pourtant, quand il était sur la croix, la première chose qu'il dira, « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. J'aime et heureusement que Jésus l'a dit. Heureusement que Jésus a osé prononcer cette parole. Heureusement qu'il a osé le dire à haute voix. Parce qu'aujourd'hui, sinon nous nous cacherions derrière des pardons à l'intérieur. Je ne te le dis pas, mais je te pardonne. Mais le pardon, nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin d'entendre ou de demander pardon. Comme Jésus l'a fait. Jésus n'a pas dit dans son cœur, je vous pardonne tous. Non, il l'a pensé, mais il l'a dit à haute voix. En Jésus, nous sommes pardonnés. Amen. Jésus nous a pardonnés. Mais nous aussi, nous avons le devoir de pardonner. Nous avons le devoir de pardonner. Souvent, on dit que, et c'est la vérité, Jésus nous a aimés le premier, Dieu nous a aimés, donc nous pouvons aimer. Mais Jésus nous a pardonné le premier aussi, et nous devons pardonner aussi. Le sacrifice de la croix, bien sûr, était pour notre salut et que nos péchés soient effacés à jamais. Mais c'était aussi pour que nous puissions pardonner. Pourquoi ? Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, quand tu demandes pardon ou quand tu reçois le pardon, tu libères ton cœur. Ton cœur se libère. Le poids du non-pardon tombe. Mais pour cela, il faut le parler. Jésus dira, si tu veux être sauvé, il faut confesser de ta bouche. Je dirais même, si tu veux demander pardon, confesse de ta bouche. Si tu veux recevoir le pardon, accepte-le de ta bouche. Si quelqu'un vient te dire, je te demande pardon, lui fais pas. Dis-lui, je te pardonne. C'est peut-être dur, mais je te pardonne. Si tu sais que tu as des choses que tu vis depuis longtemps, parce que des gens t'ont fait du mal. Et j'ai ramené quelque chose. Mon petit outil de travail aujourd'hui. Des gens t'ont certainement fait du mal. Ok? Et tu es tombé comme ça. Et ta vie s'est écroulée. Vous savez, les jeunes de quartier qu'on a rencontrés, ils ont 10 ans, on a l'impression que leur vie est déjà écrasée au sol. Tu as l'impression qu'ils ont déjà tout vu, tout vécu, tout entendu. Leur vie a été semée que de coups de poing, que de coups de pied. Et on leur a enchaîné des coups. Et peut-être c'est toi aussi, peut-être c'est ta tête ce matin qui est là. Et tu sais qu'on t'a mis des gifles, tu sais qu'on t'a retourné des coups. Tu sais que les paroles qu'on t'a données, des mauvaises paroles. Les paroles, tu es un bon à rien, tu es un mauvais, tu ne serviras à jamais rien dans la vie. Tu es voué à l'échec, de toute façon tu es même pas beau. Je t'ai fait, mais vraiment, je t'ai pas voulu. Et les coups, tu les as enchaînés et ta tête a fait comme ça et ton cœur a été balancé dans tous les sens. Mais pourtant, aujourd'hui, en Jésus-Christ, il est possible de pardonner. Vous savez, pendant ce camp, on avait un forum où les jeunes pouvaient poser des questions. Et on a eu une question à un moment, c'était, est-ce que si une jeune fille se fait violer et que le gars revient et fait ses excuses, est-ce qu'il est possible de le pardonner? La réponse a été celle-ci. Humainement, non. Avec Jésus, oui. Humainement, non. Avec Jésus, oui. Pourquoi? Parce que le pardon est divin. Le pardon est divin. Il y a bien sûr des choses qu'on nous fait, des petites choses qu'on peut pardonner sur le coup, mais il y a des choses profondes qui marquent nos cœurs avec un fer rouge. Vous savez, c'est comme si on vient planter quelque chose de douloureux dans votre cœur. Et certainement ici, des gens ont vécu des choses très difficiles que peut-être personne ne comprend, mais Jésus comprend. Et Jésus veut vous aider à pardonner, vous aider à pardonner les gens qui vous ont fait du mal. Parce qu'il sait que tant que vous ne les pardonnez pas, vous resterez sur le joug du non-pardon. Mais Dieu veut vous libérer de cela. C'est pour que ça que Jésus est mort à la croix. Pas pour que tu restes sous l'emprise du non-pardon. Mais pour que tu puisses dire, comme lui l'a dit, pardonne-leur. Je veux vraiment les pardonner. Même s'ils m'ont fait du mal, des choses terribles, je veux les pardonner. Et puis, vice-versa, si quelqu'un t'a fait énormément de mal et qu'il vient te demander pardon, ne refuse jamais le pardon de quelqu'un. Parce que peut-être un jour viendra où toi-même, tu devras demander pardon. Et peut-être là, la personne en face te dira non. En Jésus, nous pouvons être pardonnés. Et nous devons pardonner. Alors, j'aime bien citer ça, c'est une prière qu'un professeur de ZEP. ZEP, c'est, vous savez, un peu les lieux difficiles. Voilà ce qu'il dit. Donne-moi aujourd'hui le courage d'y aller. Pardonne à ceux qui vont m'offenser, comme je pardonnerai au ministère qui m'a laissé tomber. J'aimerais vous dire que le pardon de Dieu est sans condition. Pourquoi? Parce que tu as reçu le salut sans condition. Dieu t'a accepté tel que tu étais. Et tu dois accepter de pardonner ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui t'ont fait du mal. Et il y a des pardons que seul Dieu peut nous aider à accomplir. Il y a des pardons que sans l'aide de Dieu, on ne peut y arriver. Et je crois que certainement ici, il y a des personnes qui disent, mais ils ne se rendent pas compte de ce que j'ai vécu. Ils ne se rendent pas compte de la souffrance que je vis encore aujourd'hui. Peut-être, mais abrège tes souffrances. Prends la décision de pardonner. Tu te dis, oui, mais ils sont morts, toi, son. La personne qui m'a... Pardonne-le quand même. Même s'il est mort, je le pardonne. Avec l'aide de Dieu, il est possible de pardonner. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Donc on était... Où étions-nous? J'ai perdu mon texte. Je sais que le deuxième point, c'est espère tout, mais je voulais le trouver là. Verset 7. Voilà, pardon. Il espère tout. Jérémie 29, verset 11 nous dit que notre Dieu a des projets d'avenir. Amen. Des projets d'espérance. Et vous voyez cette image, peut-être ceux qui sont au fond voient mal. Il y a une personne qui est comme ça, sur cette petite pierre, il y a une grosse main qui vient et comme si on voulait l'éjecter ou l'écraser, lui faire du mal. Et cette main, peut-être la main de personnes dans ton entourage qui ont voulu te mettre sur le banc de touche, en te disant tu es qu'un mauvais, tu n'aboutiras à rien dans ta vie. Et on a voulu peut-être dans ta vie te mettre plusieurs fois même sur la touche. Mais Jésus veut changer cela aujourd'hui. Il veut ôter cette main-là qui est sans arrêt comme une pression sur toi. Vous savez, il y a des gens aussi, à force, ils deviennent comme paranoïaques. Ils disent toujours, mais moi, on veut toujours me mettre de côté, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais ils l'ont tellement vécu qu'en eux, ils ont cultivé cet esprit de rejet. Et quoi qu'on leur propose de bon à faire, non, de toute façon, on ne va pas m'accepter, on ne va pas... Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils comprennent que l'amour de Dieu change les cœurs et qu'il donne une espérance. Dieu a réfléchi à penser spécialement un projet pour toi. Il a pris du temps pour réfléchir à quelque chose de bon pour toi, de l'espérance. Et Jésus doit être ton espérance sur cette terre. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Lui est celui qui saura te comprendre. Lui est celui qui saura t'aider et qui est ton espérance. Peut-être les hommes autour de toi, les femmes autour de toi t'ont déçu, mais Jésus ne te décevra jamais. Amen. Jamais, si tu mets ta confiance en lui, il ne te décevra jamais. Il veut être ton espérance. Il veut que tu fondes une famille, et pas simplement une famille pour une famille, mais une famille qui fonctionne bien, avec des enfants heureux, avec une femme et un mari heureux, complémentaires, qui travaillent dans l'unité et dans l'amour. Jésus veut te donner de l'espérance pour ton travail. Il veut que tu réussisses. Jésus veut te donner de l'espérance pour que tu sois épanoui aussi dans ton église locale, dans ta cellule dans laquelle tu vas. Jésus veut que tu sois quelqu'un aussi qui donne de l'espérance au monde. Est-ce que tu donnes de l'espérance au monde? Est-ce que quand les gens te voient, ils disent, ah, mais tu me donnes de l'espérance, tu es quelqu'un qui me fait du bien. Est-ce que les gens font comme cela avec vous? Est-ce que les gens te disent cela? Dieu nous a placés ici pour que nous puissions vraiment être une source d'inspiration et d'espérance pour ce monde. Mais il faut déjà que nous puissions le vivre. Concrètement, réellement, l'amour de Dieu me pousse à espérer. L'amour de Dieu est si grand qu'il me pousse à espérer. Et quand je regarde à l'amour de Dieu, je ne peux qu'espérer le bon pour moi. Comme un père espère toujours le bon pour son fils. Comme une mère espère toujours le bon pour sa fille. Quand Jésus a la première place dans ton cœur, tu auras de l'espérance. Bien sûr, de l'espérance pour ton salut et pour aller au ciel avec lui pour l'éternité, mais de l'espérance aussi ici-bas, parce que nous en avons besoin, n'est-ce pas? On a besoin d'espérance, on a besoin d'espérer ici. Sans espérance, on ne va pas bien loin. C'est pour ça que les gens mettent fin à leur vie plutôt que prévu, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Quand ils regardent à demain, ils ne voient rien de bon. Mais toi, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu vois? Toi, le matin, quand tu te lèves, à quoi tu penses? En qui tu espères? En ton patron qui va te faire du mal, à ton patron qui va en train d'être derrière toi sans arrêt? Tu as peur d'affronter la vie? Tu doutes, tu crains? Mais Jésus doit être ton espérance. Jésus doit être le centre de ta vie. L'espérance. Quelqu'un a dit un jour, ce qui distingue l'homme de la bête, ce n'est pas l'intelligence, c'est la faculté d'espérer. Dieu nous a fait pour espérer. Et Dieu espère aussi en nous. Il espère que nous puissions espérer en lui, afin que le monde espère à travers nous. Dieu a de l'espoir pour toi. Quand il voit, il dit, voilà, j'ai un espoir pour lui. J'ai de l'espoir, je crois en lui. Mais est-ce que toi, c'est réciproque? Est-ce que tu crois vraiment cette parole de Jérémie 29, verset 11, qu'il a des projets d'avenir et de l'espérance, un projet non de paix, un projet de paix et non de malheur? Peut-être jusqu'à aujourd'hui, peut-être même jusqu'à ce jour où je te parle, tu dis oui, mais regarde, ma vie, ce n'est que de l'échec, mais ça peut changer. Si tu dis oui, j'accepte que Jésus soit mon espérance. Je veux que Jésus prenne la première place. Quand je me lève, je veux regarder à lui. Alors les choses vont changer. Laisse le passé là où il est. Mais regarde devant toi. Regarde l'avenir. Regarde. C'est toi qui dessines aussi ton avenir. Si tu choisis de suivre Jésus-Christ, ton avenir est sûr. Certain. Et même si des gens reviennent à la charge, tu sais que Jésus est là. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on ne reçoit pas des claques aussi de temps en temps. Hein. Vous êtes d'accord avec cela? Le troisième point que je veux voir aujourd'hui, c'est crois tout. L'amour de Dieu te pousse à croire. Donc on a vu qu'il nous aidait à pardonner, à espérer, mais maintenant, il faut croire. Croire dans les promesses de Dieu pour toi. Et que si Dieu a dit cela, personne ni rien ne peut venir au-delà de la parole de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Personne ne peut venir changer cette parole. Personne ne peut venir enlever cette promesse parce que Dieu l'a dit. Et la parole de Dieu est inébranlable. La parole de Dieu ne change pas. La parole reste à jamais. Sa parole restera à jamais. J'aime beaucoup ce verset dans Marc 9, verset 23, qui dit « Tout est possible à celui qui croit. » Tout. Tout est possible. Pas juste les choses auxquelles on pense. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. Et il y a des choses que Dieu veut te faire vivre que toi tu n'imagines même pas. Mais qu'il te conduit sur ce chemin où il va falloir croire même pour les choses pour lesquelles tu ne crois pas. Et Dieu aime cela. Quand toi tu ne crois pas et qu'il te dit crois-le, crois-le. Comme il dira à Pierre, viens, marche sur l'eau, crois-le, viens. Il a fait quelques pas, il a commencé à plonger, certes, mais il a marché, il a cru. Je vais te dire une chose, c'est que si tu crois et que tu te mets en marche, même sur les choses peut-être les plus difficiles, les plus périlleuses, mais que tu fais confiance à Dieu. Parce que j'aime la réaction de Jésus quand Pierre est en train de couler. Est-ce qu'il l'a laissé se noyer? Est-ce qu'il l'a laissé, bah tant pis, tu n'as pas cru. Eh ben, tiens, mais je vais encore te couler là. Jésus n'a pas été comme ça. Il est dit qu'aussitôt il est venu le secourir. Aussitôt il est venu lui tendre la main. Pourquoi? Parce que Jésus a admiré aussi son acte de sortir. Bon, il lui a mis quand même, il n'a pas été tendre avec lui, mais bon. Dieu saura nous donner les paroles qui vont nous relever et qui vont nous faire continuer notre marche avec lui. Pierre avait peut-être besoin aussi de parfois d'être corrigé comme ça. Mais il n'était pas comme ça avec tout le monde. Et Dieu connaît ton cœur et il saura donner les paroles dont tu as besoin pour pas que tu sois brisé, pour pas que tu sois effondré, pour pas que tu sois encore plus bas que là où déjà tu es, mais que tu puisses te relever et continuer ta marche. Parce que Dieu connaît chacun de nos cœurs et il sait ce dont nous avons besoin. Et il connaît aussi nos capacités et il ne demandera jamais rien au-delà de nos capacités. Mais il saura mettre devant nous des défis où avec nos propres yeux, nous pouvons dire « c'est pas possible ». Mais Dieu te dira « crois-le, crois-le, tout est possible à celui qui croit. Alors crois-le maintenant et mets-toi en marche, fais le premier pas et c'est moi qui vais t'accompagner. » Souvent, on attend que Jésus nous pousse de la barque. Mais Jésus ne nous poussera jamais de la barque. Jésus va t'appeler. Jésus va dire « viens, 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 suis-moi, viens, va dans cette direction. » Et c'est toi qui vas faire le premier pas. Et à partir de ce moment-là, Jésus va se mettre à tes côtés. Et si jamais tu te décales ou si jamais il y a des problèmes, des soucis, Jésus sera là pour te recadrer. Mais Jésus ne te fera jamais sortir de la barque. Il ne viendra jamais te prendre par la main. Il t'appellera. Et ce sera à toi de sortir de la barque. Volontairement. Dire « je ne vois pas comment je vais y arriver, mais Seigneur, puisque tu me le dis, j'y vais. » Ça, Dieu aime. Ça, c'est les attitudes que Dieu approuve. Il dit, voilà, lui, il sait qu'il ne peut pas y arriver tout seul, mais il espère en moi et il croit en moi. J'aimerais vous te dire que si tu crois, tu vas agir. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais crois, croire, pour moi, c'est agir. Des gens qui croient et qui n'agissent pas, ils ne croient pas. Celui qui croit, agit. Croire en Dieu, c'est avant tout et par-dessus tout, vouloir qu'il existe. Est-ce que tu veux que Dieu existe en toi? Est-ce que tu crois que Dieu est le Dieu du surnaturel? Est-ce que tu crois que Dieu est le Dieu qui change les choses impossibles en possibles? Alors laisse-le exister en toi. Laisse-le prendre toute sa vie, toute sa splendeur. Laisse-le faire. Accepte qu'il bouge tes limites. Accepte qu'il change les choses dans ta vie. Accepte qu'il change même parfois des habitudes. Accepte qu'il bouscule un petit peu ta personnalité. Accepte le changement que Dieu veut faire dans ta vie. Accepte-le. Parce que c'est pour ton bénéfice. C'est pour que tu grandisses en lui. Et que tu vois la gloire de Dieu. Je dois dire que ces 15 jours avec ces adolescents, ça a été éprouvant. Du matin jusqu'au soir, même la nuit parfois. Et j'ai dû faire vraiment confiance à Dieu. Et pour moi, c'était une expérience de foi. Humainement, je ne pouvais pas voir ces enfants se tourner vers Dieu. Humainement, je disais, mais Seigneur, mais comment ça va se passer? Le Seigneur m'a dit, cherche pas comment. Crois. Annonce la parole et moi, je m'occupe du reste. Mais il a fallu annoncer. Et même s'ils rigolent, même si parfois ils ne sont pas très attentifs, il faut continuer. Et puis quand Dieu est là, Dieu se manifeste, Dieu prend place, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus magnifique que de voir Dieu à l'action. Mais Dieu sera à l'action quand toi, tu feras le premier pas. Au dernier point, c'est que l'amour de Dieu nous aide à tout supporter. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez, il y a un homme d'un certain âge qui essaye de soulever des poids. Très très lourd. Bon, le pauvre, il n'arrive pas à décoller de plus de 10 cm. Il est... L'amour de Dieu nous aide à tout supporter. Je veux dire que l'amour de Dieu nous rend fort, nous affermit, affine et affûte notre caractère. L'amour de Dieu procure du changement dans notre vie. Et l'amour de Dieu n'est pas comme cet homme. On a l'impression que vraiment il n'en peut plus. L'amour de Dieu n'est pas un poids pour toi, mais c'est de la vitamine. C'est quelque chose de bon pour toi. C'est les choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin de l'amour pour vivre. Nous avons besoin de l'amour pour continuer notre marche. Et dans l'amour aussi, parfois, Dieu veut forger notre caractère, changer notre caractère, toujours dans l'amour. Mais il faut accepter aussi l'œuvre de Dieu. Il faut accepter que Dieu change les choses. Il faut accepter que Dieu procure quelque chose de différent en nous pour que nous puissions lui ressembler davantage. Que nous soyons davantage à son image. Qui a envie de ressembler à Jésus? Seigneur, tu les as vus. Tu nous vois, Seigneur, ce matin. Fais du changement. Change les choses, Seigneur. Procure vraiment quelque chose en nous. Procure ce désir de changer, Seigneur. Qui peut dire aujourd'hui, je n'ai plus besoin de changer? Je suis bon comme ça. Je suis sauvé. J'aime Dieu, je vais à l'église, je sers le Seigneur. Mon caractère, il passe partout. Tout va bien chez moi. Nous avons tous besoin d'accepter le changement. Il veut aussi... Pourquoi il veut affûter ton caractère? Parce que je crois que dans ta marche avec Dieu, Dieu veut te confier des choses de plus en plus importantes. Et pour ça, il faut comme un sportif, vous savez, il ne va pas réussir tout de suite. Il va falloir qu'il s'entraîne, que ses muscles deviennent de plus en plus fermes, forts. Il va falloir qu'il s'équipe, qu'il travaille. Mais il faut qu'il accepte aussi de passer par ces temps de travail. C'est bientôt les Jeux Olympiques, là. Ces sportifs se sont préparés pendant 4 ans, des fois même toute une vie, rien que pour arriver aux Jeux Olympiques. Ils ont affiné leurs muscles, leur caractère, leur pensée. Tout est fixé là-dessus, la victoire. Toutes ces années de travail. Dieu veut faire cette chose-là. Il veut te rendre fort, solide, ferme. Quelqu'un qui ne va pas s'effondrer au premier coup de vent. Mais quelqu'un dont le caractère ressemble au caractère du Christ. Caractère solide. Il veut que tu sois à même de porter les choses, même les plus difficiles. Souvenons-nous de ces hommes dont la Bible nous parle. Ils sont passés par les temps de prison. On les a battus. On les a rossés, comme on dit. On les a mis jusqu'au sang même. Mais on avait beau les mettre même en prison, ils n'avaient que des louanges à chanter. Pas de plainte. Mais pourquoi? Parce que le caractère avait été formé, forgé. C'est cela que Dieu veut faire. Que tu sois même à même de porter et de supporter même les choses les plus difficiles. Il veut que tes épaules soient larges, soient solides. Il veut que ta relation avec lui soit tellement intime, tellement personnelle, tellement réelle, que rien ne pourra ébranler ta relation avec lui et que Jésus sera toujours ton espérance. Jésus sera toujours le moteur de ta vie. Et que même s'il y a des épreuves qui viennent, même si des gens vont vouloir encore te mettre des coups, et j'aimerais te dire que si tu ne te prends pas de coups, c'est qu'il y a un problème. Si tu es sur le chemin que Jésus a tracé pour toi, c'est sûr que tu vas prendre des coups. Parce que tu vas déranger. Parce que les gens autour de toi, même dans l'église parfois, ils vont voir que ça dérange un petit peu. Puis l'ennemi aussi ne va pas apprécier ce que tu fais. Et Dieu va permettre que l'ennemi vienne te chatouiller un petit peu. Pourquoi? Parce que Dieu veut te rendre de plus en plus fort. De plus en plus solide, que tu supportes. Mais la base, c'est l'amour. Si tu sais que Dieu t'aime, alors la différence avec le premier point, c'est que si tu sais que Dieu t'aime et tu es dans l'amour et que tu développes une relation avec Dieu personnelle et tu sais que rien ni personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, les gens auront bon te frapper. Les gens vont te mettre des coups de plus en plus forts, des gifles de plus en plus fortes, des paroles peut-être de plus en plus méchantes. Mais tu sais que la base en Jésus-Christ ne te permettra pas de fléchir devant ces choses-là. La base, on aura beau te trimballer de droite à gauche, on aura beau te mettre, même essayer de te mettre à terre, mais la base reste solide. Jésus-Christ est la base de ta vie, alors... Les gens auront te mépriser, te faire du mal. ta vie restera solide. Tu resteras sur le roc. Restera sur le roc. Alors ta vie aujourd'hui est-elle basée sur le roc ou sur le sable? Au premier coup, sur le sable, voilà ce qui va se passer. Ta vie va être balayée. Il va falloir recommencer. Recommencer à nouveau. Te reprendre et recommencer tout ce processus qu'on vient de voir. Mais si tu restes ferme et si tu acceptes que Jésus soit vraiment la base et soit vraiment l'amour dont tu as besoin et qu'il soit ton premier amour. Où est ton premier amour ce matin? Est-ce que l'amour pour ton conjoint est passé même avant l'amour que tu as pour Dieu? Est-ce que l'amour pour tes enfants est passé même avant l'amour que tu as pour Dieu? Si tu l'as fait, tu as bâti ta maison sur le sable. Et je doute qu'au premier coup, tu sois balayé. Mais si Jésus est à la première place, on aura beau essayer de te transporter à droite, à gauche. On aura beau essayer même de te mettre en prison, de te mettre dans des endroits difficiles. La base est là. Et peu importe où on te pose, peu importe, la base est solide. La base ne bouge pas. Jésus-Christ sera toujours là. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il t'aime. Et l'amour de Dieu ne tarit jamais. Alors pour terminer, pour apporter ma conclusion, j'aimerais vous dire que les quatre points que la Bible nous donne, je crois que c'est jamais mis au hasard les choses. Et c'est un processus qui commence par le pardon. Le fait soit de demander pardon ou d'accepter le pardon. C'est la base qui va te pousser à espérer. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes ou tu pardonnes, ta vision des choses, la vision de la vie change. Et ensuite, cela va te pousser à agir, à croire. Et ensuite, t'aider à supporter les choses de plus en plus difficiles, mais aussi à rencontrer Jésus-Christ de plus en plus dans l'intimité et à connaître de plus en plus le cœur de Dieu. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on voit vraiment où nous en sommes avec Jésus. C'est un processus. Le processus du pardon, c'est le processus de la restauration. Et le processus du non-pardon, c'est le processus de l'autodestruction. Le non-pardon est comme un cancer qui va te ronger. Et tant que tu ne reprendras pas la décision, soit de pardonner ou de recevoir le pardon, ce cancer va te manger et va te détruire. Croyez que Jésus, pourquoi il a dit cela à la croix? Pardonne-le. Parce qu'il savait qu'en disant ces paroles-là, nous pouvons aussi aujourd'hui nous attacher à cette parole. Dire, si Jésus l'a fait, en Jésus, je peux le faire aussi. Et heureusement qu'il l'a prononcé, parce que grâce à cette parole, aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, pardonne-le. Je te demande pardon aussi pour le mal que j'ai fait. Mais pardonne-le. Peut-être parce qu'ils n'ont pas mesuré tout ce qu'ils ont fait. Mais je les pardonne aujourd'hui grâce à toi. Tu as besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Son amour n'est pas là pour te juger, mais il est là pour te restaurer ce matin. Il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour te bénir et te restaurer. Le pardon est une œuvre de restauration. Des cœurs ont besoin d'être restaurés ici. Je le sais. Des cœurs ont besoin d'être restaurés. Ce cancer a besoin d'être arraché, mais cela vient de Dieu. Et d'accepter la main de Dieu, accepter de suivre Dieu, accepter de mettre Jésus à la première place. Est-ce qu'on pourrait se lever un instant? Alors, si on peut mettre la dernière citation que j'aime bien. La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue. Tandis que si on partage son amour, il augmente. Cependant, l'idéal étant d'arriver à partager son amour avec quelqu'un qui a du pognon. Je me dis, il fallait quand même finir sur une note un petit peu... Si tu partages ton cœur avec Jésus-Christ, Il te pardonnera, mais il te donnera la force de pardonner. Partage ton cœur avec lui. Ce matin, ouvre-lui ton cœur. Et je crois que Dieu veut t'aider ce matin. Dieu te tend la main et te dit, je veux et je suis celui qui peut t'aider à pardonner. Ou à demander pardon. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à demander pardon. Qui n'arrivent pas à dire, je te demande pardon. Il y a des gens qui disent, je m'excuse. Mais ça je m'excuse, c'est trop facile ça, je m'excuse. Je m'excuse. Non, mais ça c'est, je te demande pardon. Déjà, c'est une question. Je te le demande, mais est-ce que tu vas me l'accorder vraiment? Parce que si je te fais mes excuses, en gros, je te laisse pas le choix, je te les fais. Mais je te demande pardon. Je te le demande. Est-ce que tu veux l'accepter? Déjà, la démarche est différente. Jésus n'a pas dit excuse-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardon. Pardon. Le mot est fort, le pardon. L'excuse, ça, c'est banal. Le pardon est un mot fort. Et ce matin, Dieu veut toucher les cœurs pour que tu puisses être à même de pardonner. Prions un instant.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.